l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Souillac, 104.8.
Soyez les bienvenus, Présence Midi, nous sommes en direct, nous sommes ensemble jusqu'à 13h et j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Rose Jankovic. Bonjour Anne-Rose.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Dans cette émission, un billet d'humeur nous attend. De quoi s'agit-il ?
Ah bien écoutez, je ne suis pas contente. Je ne suis pas contente parce que j'ai vu partout depuis 15 jours dans les rues des panneaux publicitaires annonçant que Noël était arrivé. Ben non, mes petits chats, je suis désolée. mais Noël n'est pas encore là. Voilà. Mais on peut déjà s'y préparer. C'est ça la bonne nouvelle. Alors moi, j'ai que des bonnes nouvelles à vous annoncer aujourd'hui.
Et pour s'y préparer, vous allez nous emmener du côté d'Esbarèche, c'est dans la vallée de la Barousse.
C'est dans la vallée de la Barousse, vous savez où ça se trouve la vallée de la Barousse?
Exactement, si on sort en direction Montrégeau, c'est dans le département des Hautes-Pyrénées. Hein.
Oui, c'est dans le département des Hautes-Pyrénées, mais attention, ça n'est pas la Bigorre, c'est le Comminges. Les Hautes-Pyrénées, mais le Comminges.
Très bien. Dans cette émission, également, on va parler de la nouvelle quinzaine du Narthex. Une nouvelle quinzaine du Narthex qui s'annonce. Elle va regrouper 4 soirées en novembre. Ça va se passer à Tarbes et on va en parler avec votre invité.
Père Pierre Deberger, qui est un prêtre originaire du diocèse d'Aire et d'Aix, qui est bibliste et membre de la commission biblique pontificale. Il interviendra effectivement au cours de cette 32e édition du Narthex et il nous parlera d'espérance.
Alors, c'est pas encore Noël, mais dans quelques jours, c'est la Toussaint et on en parlera dans quelques minutes dans l'agenda du diocèse de Tarbes et Lourdes. Voilà pour les grandes lignes de cette émission. Sans oublier, à 12h50, balade en pays de Lourdes, on va parler de la place Marcadale qui se trouve en plein centre de Lourdes. Mais pour le moment, à 12h03, voici l'essentiel de l'actualité régionale avec les titres à la une. Les titres sont présentés par Éric Leclerc.
Reconnexion au réseau électrique de l'unité de production numéro 1, la centrale nucléaire de Golfech. Dans la nuit de dimanche à lundi, l'unité de production numéro 1 de la centrale était reconnectée au réseau électrique national. Elle avait été à l'arrêt le vendredi 24 octobre afin de procéder au remplacement d'un câble d'alimentation dans la partie non nucléaire de l'installation. L'unité de production numéro 2 est quant à elle en arrêt depuis le 18 avril dernier dans le cadre de sa troisième visite décennale. Signature de la convention hospitalo-universitaire 2025-2029 Toulouse, pôle d'excellence. Elle marque une nouvelle étape dans le partenariat historique qui unit l'Université de Toulouse, le CHU de Toulouse et le Centre de lutte contre le cancer Oncopole Claudius Regaud. Cette convention consacre plus de 50 ans d'histoire commune et formalise la stratégie hospitalo-universitaire partagée par les établissements signataires. Elle fixe les grandes orientations en matière de formation, de recherche, d'innovation et d'attractivité en cohérence avec les projets d'établissement et les contrats d'objectifs et de moyens de chacune des institutions signataires. 10e édition de la campagne nationale Moi sans tabac. En Occitanie, ce sont 1,2 million de fumeurs quotidiens. Près de 6 fumeurs sur 10 déclarent vouloir arrêter. La campagne Moi sans tabac leur offre une opportunité concrète et motivante pour franchir le cap. Pour aller à la rencontre des fumeurs, la tournée régionale des villages Moi sans tabac sera en Occitanie avec des stands d'information, des animations, des entretiens gratuits avec des tabacologues et des conseils personnalisés. Voici les villes et les dates. Cossa des Monteils le 3 novembre, Mirande le 4, Gourdon le 6, à Biars-sur-Cère le 7 novembre, à Lavelanet en Ariège le 14 et à Decazeville le 18 novembre.
Merci Éric Leclerc, on vous retrouve tout à l'heure à 12h30 pour développer ces titres dans le journal. Dans un instant, c'est l'agenda du diocèse de Tarbes et Lourdes.
Toutes les assurances se valent, me direz-vous?
Eh bien non.
La mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à prix compétitif.
Et elle œuvre pour un monde fraternel. Cette année, elle fait un don de 50 000 euros à l'Ordre de Malte France pour un accueil Malte à Toulon, un centre qui secourt et soigne les plus démunis.
Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, sans dépasser mon budget.
Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'assurance au cœur fraternel.
Entreprise régie par le Code des assurances. Plus d'informations sur leur site.
Présence à Castelsarrasin, 93.3.
Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus tous les jours en sillonne une diocèse. Et aujourd'hui, on s'arrête dans le diocèse de Tarbes et Lourdes pour l'agenda. Rebonjour Androse Jankovic.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Un agenda qui va se transformer à la fin de cet entretien en billet d'humeur.
Oui, c'est vrai. Pour une fois, je vais partager avec vous mes petites humeurs.
Voilà, vraiment, j'invite les auditeurs à rester jusqu'à la fin de cette chronique. Ce week-end, c'est la Toussaint et on va commencer avec cette proposition à la cathédrale de Tarbes.
Oui, ce samedi 1er novembre, venez fêter la Toussaint en la cathédrale Notre-Dame de la Cède à Tarbes. La messe y sera présidée par notre évêque, Monseigneur Jean-Marc Mica, donc à 11h. Et une invitation un peu particulière, originale, sympathique en tous les cas, est faite aux enfants. Ils sont invités, ces petits, à venir en habit du saint de leur choix. Alors souvent, les enfants choisissent leur saint patron, mais ce n'est pas obligé. Ils peuvent aller chercher des idées avec l'aide de leurs parents dans des livres ou sur Internet. Voilà, donc ces enfants sont invités à venir déguiser en saint, avant de le devenir peut-être. Qui sait. Et puis à la fin de la messe, eh bien, il y aura la bénédiction de la statue de la Vierge Marie qui a été restaurée, qui se trouve derrière la cathédrale Notre-Dame de la Cède. Et puis après tout cela, eh bien, dans le jardin de la cathédrale, il y aura pour ces enfants qui auront fait l'effort de se vêtir et de se déguiser en saint, eh bien, il y aura une chasse aux bonbons. Voilà, une journée, une fête de la Toussaint, ma foi, fort originale et fraternelle, que nous sommes invités à fêter à Tarbes le 1er novembre.
À la cathédrale de Tarbes, et on rappelle évidemment que dans de nombreux villages, hein, il y aura des célébrations ce week-end.
Oui, bien sûr, et alors les messes de la Toussaint, évidemment, dans les paroisses, et puis la bénédiction des tombes dans les cimetières. Donc renseignez-vous vraiment auprès des secrétariats de vos paroisses, parce que des calendriers ont été établis et diffusés déjà un petit peu partout dans les villages pour savoir quand est-ce que le prêtre ou le diacre ou un laïc engagé dans la paroisse viendra bénir les tombes de vos cimetières.
Ce sont les vacances scolaires et vous nous proposez une idée de sortie. 900 bénitiers à voir, ça se passe à Vignac.
À Vignac, en Vallée d'Or et du Loup, ont 900 bénitiers de maisons. Alors vous savez, ce sont ces petits bénitiers qui étaient autrefois accrochés dans les maisons, souvent à côté des lits ou bien parfois au-dessus, enfin à côté des portes ou bien dans les cuisines, enfin dans les pièces de vie. Ces 900 pièces d'origine qui ont été fabriquées dans des matériaux différents vous attendent. Elles sont vraiment le souvenir d'un temps où le sacré était au cœur des maisons et de nos vies. Et cette exposition de bénitiers, plus de 900 pièces donc, est visible dans le moulin de Vignac qui ouvre ses portes notamment pendant ses vacances scolaires, donc jusqu'au 2 novembre. Vous pouvez donc venir visiter cette exposition assez originale.
Voilà, une idée de sortie avec les enfants pour ces vacances de la Toussaint. On poursuit avec ces deux propositions de formation à la paroisse du Pays de Lourdes.
Exactement, deux propositions qui vont être lancées cette semaine ou dans les jours prochains par la paroisse du Pays de Lourdes. La première, c'est un parcours biblique. Voilà, un parcours biblique pour se plonger dans la première épître de Saint Paul aux Corinthiens. Ça commence le 5 novembre, donc dans quelques jours. Il faut pour cela s'inscrire au préalable en contactant la paroisse à l'adresse mail lourdeparoisse@gmail.com, lourdeparoisse@gmail.com. Les rendez-vous ont lieu une fois par mois, salle Saint-Pierre, rue Barthaïrès à Lourdes, à 19h30. Et puis, le deuxième parcours de formation, c'est tout autre chose, c'est une théologie de l'icône proposée par le père Jean Hazard. Ça commence le 12 novembre à raison d'un rendez-vous par mois jusqu'au mois de juin, à 19h30, salle Saint-Pierre, rue Barthaïrès à Lourdes. Les conditions d'inscription sont les mêmes. Il faut envoyer un mail à lourdeparoisse@gmail.com et dans les deux cas, pour ces deux propositions, eh bien le cycle de formation coûte 10 euros. C'est une participation à apporter lors de la première rencontre. Donc le parcours biblique pour découvrir ou redécouvrir l'épître de Saint Paul aux Corinthiens commence le 5 novembre. Le parcours de théologie de l'icône commence le 12 novembre. Voilà, et toutes les informations sont à la fois sur l'application Au Clocher, mais également sur le site de la paroisse de Lourdes.
Une nouvelle quinzaine du Narthex s'annonce dans le diocèse de Tarbes-Lourdes. Elle regroupera 4 soirées, c'est à partir de ce mois de novembre.
Oui, alors le Narthex, ça désigne un temps d'échange et de rencontre qui est offert chaque année pendant une quinzaine de jours à tous les curieux des questions qui traversent un peu notre société. C'est la 32e édition de cette quinzaine du Narthex. Et cette année, le thème choisi est celui-ci, à qui faire confiance aujourd'hui ? Vaste question, vaste programme. Il y a plusieurs rendez-vous qui sont proposés. Les rendez-vous, les conférences ont lieu à la Bourse du Travail à Tarbes à 18h30, le lundi 3 novembre, le vendredi 7 novembre, le jeudi 13 novembre et le vendredi 14 novembre. Alors, au cours de ces soirées, eh bien, nous pourrons échanger, réfléchir à différentes questions. Le lundi 3 novembre, il s'agira d'une conférence de Laurent Bibard, qui est philosophe et qui abordera cette question, comment faire société sans la confiance. Le vendredi 7 novembre, l'informaticien Pierre Vincenot nous parlera d'intelligence artificielle, confiance ou défiance. Le jeudi 13 novembre, nous pourrons entendre le père Pierre Deberger, qui est bibliste, nous parler d'espérer contre toute espérance. Vous entendrez dans quelques instants, en deuxième partie d'émission d'ailleurs, le père Pierre Deberger nous donner un avant-goût de cette conférence. Et puis le vendredi 14 novembre, eh bien là, il y aura une table ronde sur le thème des institutions. Les institutions à l'épreuve de la défiance. Cette quinzaine du Narthex est ouverte très largement. Tous les rendez-vous ont lieu donc à la Bourse du Travail à Tarbes à chaque fois à 18h30. N'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est vraiment un rendez-vous à la fois d'information, de formation, j'allais dire, mais aussi d'échange. Donc vraiment, n'hésitez pas.
Voilà, c'est donc à la Bourse du Travail de Tarbes à partir de 18h30. Narthex65.fr, ça c'est le site internet pour se renseigner. Et on rappelle que le Narthex, ça se trouve à l'entrée des églises.
Oui, tout à fait. C'est vraiment un lieu d'échange, de rencontre. Et voilà, c'est pour ça qu'ils ont choisi ce nom. Parce qu'effectivement, cette quinzaine du Narthex, eh bien, elle suscite des rencontres qu'on n'aurait peut-être pas pu faire dans un autre contexte.
Et on en reparlera dans quelques minutes, puisqu'à votre téléphone, vous allez recevoir le père Pierre Deberger, vous l'avez dit, qui animera donc la conférence du jeudi 13 novembre. Il sera à votre téléphone dans quelques minutes. Alors, on a reçu beaucoup d'appels, puisque les auditeurs sont impatients de connaître votre billet d'humeur. On parlait il y a quelques minutes de la Toussaint, et votre billet d'humeur, eh bien, c'est concernant Noël.
Oui, alors c'est vrai que j'ai eu un billet d'humeur, c'est beaucoup dire, mais en tous les cas, j'ai eu un coup de colère en voyant déjà depuis 15 jours des panneaux publicitaires annonçant ceci, je cite, Noël est arrivé. Eh bien non, je suis désolée de vous décevoir, mais Noël n'est pas encore arrivé. Chaque chose en son temps, doucement. Dans quelques jours, nous fêterons la Toussaint, nous l'avons dit. Puis le lendemain, le 2 novembre, nous célébrerons nos défunts. Puis ce sera la fin de l'année liturgique. Et ensuite seulement, nous pourrons fêter l'entrée dans le temps de l'Avent avant de nous réjouir de la naissance du Christ. Alors justement, Noël n'est pas arrivé. Et c'est une excellente nouvelle au fond, parce que le calendrier, et en particulier le calendrier liturgique, nous offre du temps pour nous préparer à la naissance du Christ. Pour autant, ici ou là, dans les paroisses notamment, on s'active déjà, et ce n'est pas la même chose, pour l'installation de la crèche. À ce sujet, voilà plusieurs années que le service des archives et du patrimoine du diocèse de Tarbes-Lourdes nous invite à installer la crèche dans toutes nos églises, et puis à nous organiser pour permettre au plus grand nombre de contempler le mystère de la nativité. Faire la crèche, ouvrir l'église, et puis après le temps de Noël, ranger les santons, les décorations, pour laisser place à un autre temps liturgique. Vous voyez la logique. Dit comme ça, ça semble un peu enfantin peut-être, mais en fait cette initiative, elle est profondément missionnaire. Pour vous en convaincre, je vous propose un petit reportage, une petite virée en Barousse. Vous savez, Gilles-la-Barousse, c'est ce magnifique coin des Hautes-Pyrénées, niché entre la Haute-Vallée de la Garonne et la Vallée de la Neste. Ce n'est pas la Bigorre, c'est le Comminges, mais ce sont quand même les Hautes-Pyrénées. En Barousse se trouve un petit village, le village d'Esbarèche, à peine 80 habitants. Et depuis quelques années, 3 d'entre eux se sont mobilisés pour reconstituer la crèche et proposer une véritable catéchèse. Alors, c'est pas tellement un billet d'humeur, quoique... Voilà, c'est vrai que j'étais un petit peu en colère, mais je vous propose d'écouter ce reportage.
Présence.
Alors nous voici à Esbarèche, où ça n'est pas encore Noël, mais quand même, nous préparons Noël ici à Esbarèche, avec vous, Monsieur Marot, notamment. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes entouré de Bernadette. Bonjour Bernadette.
Bonjour.
Et Christine.
Et bonjour.
Alors, tous les trois, vous êtes mobilisés déjà depuis plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois, pour préparer Noël, pour préparer précisément la crèche qui va trouver sa place dans l'église d'Esbarèche d'ici quelques semaines et qui va pouvoir être admirée de toutes les personnes qui passeront à Esbarèche durant tout le mois de décembre et même un petit peu après Noël. Monsieur Marot, vous êtes un artiste et vous êtes tombé dans cette aventure, on peut dire, déjà il y a quelques années, où vous vous êtes mis à construire une crèche un peu hors du commun. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête, si je puis me permettre ?
Mais écoutez, il y a 3 ans, dont ma belle-fille, Christine, avec son amie Bernadette, m'ont demandé au départ si je pouvais faire une crèche pour l'église d'Esbarèche. Et alors nous sommes allés dans les bois. Et nous avons trouvé du bois qui nous convenait, du bois mort, c'est ce qui était le plus intéressant, avec différentes formes. Et au départ, bon, on a fait, écoutez, la crèche classique que vous voyez ici, avec tout, avec du bois de récupération, des cartons, et j'ai fait cette crèche. Puis j'ai fait les petits râteliers pour les personnages, voilà comment ça a commencé il y a 3 ans.
Avec de la récup.
Ah ben oui, c'est tout de la récupération. C'est donc, je vous dis, du bois mort. Là, ici, pour la toiture, ce sont des branches taillées, des arbres de taille d'arbres, tout ça. Ça c'est à la décharge, vous voyez, où j'ai trouvé tout ce qui me plaisait à partir des palmiers, de reste de palmiers et tout. Et pour les murs, c'est du carton. Tout de la récupération.
Alors ça, c'est pour la crèche, le décor. Mais alors après, dans le décor, il y a pas mal de choses qui se sont greffées. Je vois des personnages, un tas de petites choses. Mais tout cela bouge, tout cela fonctionne. Ça n'est pas un monde inerte.
Voilà, mais écoutez, il y a 3 ans, quand j'ai fait la crèche, j'y travaille un petit moment, et puis je m'arrête. Et puis j'ai découpé un bœuf et un âne, et puis... pourquoi tu ne pourrais pas faire bouger la tête de ce bœuf ? Et puis j'ai fait une petite mécanique, comme ça je faisais tourner à la main. Et puis quand je l'ai dit à Bernadette et à Christine, ils m'ont dit, mais non, mais nous on a tout pour l'intérieur, on a la crèche traditionnelle. Ah bon, mais puis comme ça me plaisait d'avoir fait un petit peu d'animation, je leur ai proposé si je ne pouvais pas, moi, en dehors de la crèche, faire quelque chose. Et voilà comment c'est parti, et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des petits personnages que j'ai mis. Mais ce que je voulais, c'était donner aussi un sens à la crèche. Faire bouger les personnages, bah, écoutez, maintenant, avec le matériel moderne qu'il y a, des petits moteurs miniatures et tout, j'allais dire que c'est facile. Mais j'ai pensé qu'il y avait peut-être un petit message à faire passer, le message de la vie. Et quand on parle de la vie, mais c'est l'eau. L'eau, c'est la vie. Et c'est là où ça a trotté dans ma tête. Je me suis dit, mais voyons, à partir de l'eau, que peux-tu faire pour... Et l'idée est partie de là, dit l'eau en plus... En Barousse, l'eau, c'est quelque chose d'important, puisque en plus Barousse serait l'origine indo-européenne, voudrait dire la vallée où coule l'eau. Tout ça, ça trottait dans ma tête. Je dis, mais l'eau est peut-être une force motrice, et à partir de là, écoute, tu pourrais peut-être faire marcher les personnages. Alors c'est là où est partie l'idée d'animer la crèche avec de l'eau.
Donc c'est-à-dire que cette crèche, on peut déjà la contempler quand elle ne bouge pas, mais un petit mécanisme déclenche l'eau, et une fois que l'eau coule, eh bien, tout se met en marche petit à petit, tout s'active, tout s'anime.
Voilà, rentrons dans la pédagogie. Bon, le cycle de l'eau, bon, je ne peux pas inventer le soleil, il existe déjà, mais la nuit, dans l'église d'Esbarèche, il fait nuit. Alors comment je vais pouvoir remplacer le soleil ? On va remplacer le soleil avec une petite pompe d'aquarium. Bon, cette pompe, ben, ça va faire l'évaporation du soleil. Il y a la condensation, mais comment faire les nuages ? Bon, on va imaginer les nuages. Mais les précipitations, mais cette petite pompe d'aquarium va me procurer la précipitation qui va me faire couler l'eau en haut de la montagne. C'est la source qui apparaît. Voilà. Et puis l'eau coule et vient animer tout ça. Voilà. Au départ, c'est aussi pédagogique. C'est le cycle de l'eau. La pompe remplace le soleil. Et cette eau, c'est toujours la même eau. Bah, c'est la même eau qui nourrissait les dinosaures, hein, il y a 60 millions d'années, hein, c'est la même eau, et c'est cette eau qui nous anime la crèche.
On revient sur le sens de la crèche, M. Marot, puisque tout ce monde, cet univers qui est animé autour de la crèche, finalement, il ne remplace pas la catéchèse qui se passe à l'intérieur de la crèche. Ça raconte tout cela, la nativité, c'est Jésus qui naît dans notre monde, mais tout autour, eh bien, il y a la vie, il y a la vie des hommes.
Voilà, il y a 2000 ans, aux portes du désert, au confluent où les hommes ont émigré pour coloniser toute la planète, donc à ce confluent des civilisations, on trouve il y a 2000 ans la civilisation romaine qui a progressé dans tout le bassin méditerranéen et qui se confronte à la civilisation des Bédouins. C'est ce que j'ai voulu dans un premier temps, montrer le temple romain avec les soldats romains à l'intérieur. Et ensuite, on voit les Bédouins qui sont tout autour. Bon, c'est cette confrontation de civilisation il y a 2000 ans. Et puis, on rentre dans la vie des Bédouins. L'homme, pour vivre, il a domestiqué les animaux. Ensuite, il a travaillé le fer. Il travaille tout ce qu'il peut, les animaux pour se nourrir, pour se vêtir. Et puis, on arrive au soir de la nativité, où l'ange en haut de la nativité annonce la naissance. Et puis, quand on regarde dans le ciel, la roue qui tourne, c'est la terre, le temps qui passe. Et puis, ce que l'on voit aussi dans une partie de ce ciel, là-bas, eh bien, ce qui va se passer quelque temps plus tard, après la nativité, 31 années après, on peut deviner dans les nuages la scène qui se découvre derrière le nuage. Donc c'est tout ça que je voulais essayer de mettre en scène. Ça part de la confrontation des civilisations, la naissance du Christ, et puis ce qui va se passer plus tard, on lève la tête vers le ciel, qui tourne vers les étoiles, et il va peut-être se passer quelque chose.
Voilà, eh bien, c'est vraiment réussi, parce qu'effectivement, on est vraiment plongé dans cette catéchèse qui nous parle de cette naissance du Christ, et puis de cette vie, alors de cette vie aussi en Barousse, hein, parce que vous avez quand même intégré deux, trois petits clins d'œil, notamment, je vois, sur les arbres, sur un arbre. Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez nous expliquer?
Alors écoutez, pour les gens qui viennent de l'extérieur, ce sera la colombe, hein, la colombe de la paix, mais comme je l'ai peinte en bleu, pour nous, cette colombe en Barousse, c'est cet oiseau bleu, dont il y a des légendes rattachées aussi à ces oiseaux bleus, c'est la palombe là, qui est au bout de l'arbre.
Voilà. Mais, un petit clin d'œil à la Barousse.
Voilà, un petit clin d'œil à la Barousse, voilà, avec un petit coup de peinture bleue, mais ça peut être aussi la colombe de la paix.
Et pour la petite histoire, j'aperçois que le dessous de la colombe, alors voilà, c'est quoi? C'est un morceau de métal avec une épingle à nourrice. C'est vraiment Jojo la débrouille. Hein.
Tout a été fait de la récupération. Il a fallu beaucoup de colle et du fil de fer, bon, puisque aussi, le fil de fer avec moi, c'est indispensable, hein, pour faire les mécanismes, tout ça. Mais après, c'est tous des matériaux de récupération, dont la colombe. Comme vous voyez l'aigle ou le vautour, ben ce sont des bouts de boîte de conserve avec des épingles à nourrice pour faire les articulations, et puis du crin, et puis de la patience. Voilà.
De la patience. Alors, de la patience et puis des idées. Combien d'heures vous passez à préparer la crèche? Est-ce que vous avez une idée de...
Non. Impossible, parce que
Vous commencez quand? Vous commencez quand à tout ressortir?
Mais là, on est
Fin septembre, on est allé la chercher.
Alors, j'y passe une heure de temps, j'y passe deux heures, j'y passe cinq minutes. Donc, c'est difficile à quantifier. Et puis, la nuit, je me dis, tiens, comment tu pourrais faire?
Alors, Bernadette et Christine, maintenant. Quand une fois que la crèche est installée dans l'église d'Esbarèche, il faut bien que les gens puissent venir la voir. Pour que les gens puissent contempler cette crèche, eh bien, ça nécessite, on imagine, beaucoup d'organisation. l'éducation, ça c'est votre partie. Qu'est-ce qui se passe en fait? À quel moment vous ouvrez? Est-ce que vous êtes une présence en continu? Comment vous faites?
On se concerte pour les heures d'ouverture et la date d'ouverture et de fermeture. Et après, c'est vrai une fois Christine, souvent c'est moi qui ouvre, c'est Christine qui ferme, comme elle habite à côté. Voilà. Et puis, moi j'essaye d'y être assez souvent parce que c'est vrai que les gens aiment bien savoir qu'on leur raconte, qu'on leur explique. Voilà.
Monsieur... Donc il y a des gens qui passent tout le temps, pendant la période de Noël ou avant, pendant le temps de l'Avent, l'église est visitée et les gens viennent voir la crèche. Il y a un intérêt pour la crèche.
Oui, il y en a qui viennent voir la crèche et qui ne sont même pas croyants. Quoi.
Des marcheurs essentiellement aussi. Et après, des familles viennent le week-end, plus le week-end, les vacances. Oui, l'année dernière, on a eu beaucoup de monde pendant les vacances scolaires. Après le week-end, après la semaine peut-être un peu moins, mais il y a quand même du monde qui vient de tout le département, hors du département, il y a du monde, oui.
Alors, pour vous qui avez lancé un petit peu cette aventure, Christine, avec Bernadette, pourquoi vous vous êtes dit à un moment, c'est important de remettre vraiment le projecteur sur la crèche et de mettre notre énergie là-dedans?
Moi, je tenais à revoir la crèche que j'avais vue dans mon enfance, qui se trouvait à Esbarèche, avec les sujets que j'avais toujours en tête. Et je tenais à ce qu'on refasse une crèche.
Donc, c'est vous qui avez démarré, en fait, en sortant les vieux sujets, voilà. En les rafistolant, je crois.
Oui, je les ai remis en état, je les ai nettoyés, je les ai remis en état.
C'est magnifique. Voilà. Et alors, donc, tout le public qui le souhaite pourra en profiter à partir du début de l'Avent.
Du 6 décembre.
Du 6 décembre.
Voilà, le samedi 6 décembre, à partir de 10h, on va ouvrir, et puis jusqu'à mi-janvier.
Jusqu'à mi-janvier. Voilà. Il faut dire quand même une chose qui est importante et qui vous tient à cœur, Christine, c'est que le petit Jésus n'est pas posé dans la crèche dès le début.
Non, c'est le 25. Le 25, il sera. Il y sera.
Voilà. Bon, merci en tous les cas pour cet engagement. Peut-être un petit mot pour finir. À ceux qui nous écoutent et qui ne voient pas trop la nécessité de faire la crèche dans l'église de leur village ou de leur quartier, parce qu'il n'y a pas forcément la messe pendant la période de l'Avent ou pendant le temps de Noël, et qui se disent, à quoi bon, et de toute façon, si on fait la crèche, peut-être que personne viendra la voir ou personne ne le saura. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens à qui manque peut-être un petit coup de pouce pour oser?
Mais de se déplacer, et ça vaut vraiment le coup de venir à Esbarèche voir l'église et la crèche. Voilà.
Voilà, ça veut dire qu'après les gens repartent en ayant envie de faire la crèche chez eux.
D'ailleurs, il y a certains villages qui nous ont dit on vient prendre exemple sur Esbarèche.
En tous les cas, merci et bravo. Rendez-vous à partir du 6 décembre dans l'église d'Esbarèche qui sera ouverte toute la journée, tous les jours, toute la journée à partir du 6 décembre. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Voilà donc pour ce reportage à Esbarèche en Barousse. C'est un reportage tout simple, hein, mais qui nous montre bien à quel point l'invitation à installer les crèches dans nos églises a du sens et même un acte d'espérance. L'Avent commence le dimanche 30 novembre. Alors hop, c'est le moment, allez toquer chez votre voisin, demandez de l'aide, faites appel au talent des uns et des autres, organisez-vous en concertation avec votre curé, l'équipe d'animation paroissiale bien sûr, n'oubliez pas de signaler votre démarche à la mairie, bref, pensez-y dès maintenant pour ouvrir le temps venu, dès le temps de l'Avent, l'église de votre village. Ce sera peut-être quelques heures, ce sera peut-être quelques jours, mais vous verrez que ça va tout changer dans votre manière de vivre Noël, de vous préparer à Noël, parce que vous aurez partagé cet immense sacrement. Bonne nouvelle de la nativité.
Voilà, et à travers ce message, vous nous annoncez que l'opération crèche de Noël dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes est renouvelée.
C'est renouvelé, il faut s'y préparer, mais attention, ça ne veut pas dire que Noël est arrivé, ça veut dire que Noël se prépare.
Voilà, finalement, ça s'est bien passé, ce billet d'humeur.
Oui. Mais vous savez, voilà, j'étais chafouin, mais ça va mieux. Une fois que c'est dit, ça va beaucoup mieux.
Voilà, bien. Merci André Jankovic, vous restez avec nous dans un instant.
Oui,
on va parler donc de cette quinzaine du Nartex, c'est au mois de novembre dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes avec votre invité qui sera également intervenant dans quelques jours.
Oui, le père Pierre de Berger, nous allons teaser sa conférence espérée contre toute espérance, il nous en parle dans quelques minutes.
Voilà, mais pour le moment vous avez l'horloge juste au-dessus de vous.
Il est midi 29 sur Présence.
Voilà, il nous reste encore 30 secondes à meubler avant de retrouver le chemin.
Ah bon, alors écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous inviter à vous abonner à la chaîne YouTube Bigorre TV, c'est la chaîne YouTube du diocèse de Tarbes-et-Lourdes. On a un peu plus de 900 abonnés et je le redis, le 1000e abonné aura une surprise, un cadeau.
Voilà, et bien vous ferez ça sur Radio Présence, en direct, on l'appellera.
Peut-être, voilà. Et peut-être que le cadeau est lié à Radio Présence d'ailleurs. La découverte des coulisses ou quelque chose comme ça, enfin voilà.
Bon.
N'hésitez pas à vous abonner, Gilles.
Je suis déjà abonné, vous le savez.
Attention, il est midi 30, c'est le journal.
Et le journal est présenté par Éric Leclerc. Bonjour Éric.
Bonjour, reconnexion réseau électrique de l'unité de production numéro 1 à la centrale nucléaire de Golfech. Dans la nuit de dimanche à lundi, l'unité de production numéro 1 de la centrale a été reconnectée au réseau électrique national. Elle avait été à l'arrêt le vendredi 24 octobre afin de procéder au remplacement d'un câble d'alimentation dans la partie non nucléaire de l'installation. L'unité de production numéro 2 est quant à elle en arrêt depuis le 18 avril dernier dans le cadre de sa troisième visite décennale. Il était difficile de circuler en train ce dimanche entre Bordeaux et Toulouse. Une panne électrique sur un train intercité. La SNCF a dû supprimer 2 TGV qui reliaient Toulouse et Paris et 7 TER. Hier matin, quelques perturbations persistaient encore. Signature de la convention hospitalo-universitaire 2025-2029, Toulouse, pôle d'excellence. Elle marque une nouvelle étape dans le partenariat historique qui unit l'Université de Toulouse, le CHU de Toulouse et le Centre de lutte contre le cancer Oncopol Claudius Rego. Cette convention consacre plus de 50 ans d'histoire commune et formalise la stratégie hospitalo-universitaire partagée par les établissements signataires. Elle fixe les grandes orientations en matière de formation, de recherche, d'innovation et d'attractivité en cohérence avec les projets d'établissement et les contrats de objectifs et de moyens de chacune des institutions signataires. À travers cette convention, les partenaires réaffirment une ambition commune, conforter la place de l'école toulousaine de santé comme pôle d'excellence au service de la santé de la population et de la formation des professionnels de santé dans un esprit de coopération et de service public et intégré à l'Université de Toulouse. 10e édition de la campagne nationale Moi sans tabac, un défi collectif proposé chaque année à tous les fumeurs souhaitant arrêter le tabac avec un accompagnement gratuit, personnalisé. En Occitanie, ce sont 1,2 million de fumeurs quotidiens. Près de 6 fumeurs sur 10 déclarent vouloir arrêter. La campagne Moi sans tabac leur offre une opportunité concrète et motivante pour franchir le cap. Pour aller à la rencontre des fumeurs, la tournée régionale des villages Moi sans tabac sera en Occitanie avec des stands d'information, des animations, des entretiens gratuits avec des tabacologues et des conseils personnalisés. Voici les villes et dates. Caussade et Monteil le 3 novembre, Mirande le 4, Gourdon le 6, à Biars-sur-Cère le 7 novembre, à Lavelanet en Ariège le 14 et à De Casseville le 18 novembre. Prochaine nuit de l'orientation à Tarbes le jeudi 6 novembre de 14h à 20h à la CCI Tarbes et Hautes-Pyrénées. Afin d'accompagner les collégiens, lycéens, étudiants et informer leurs parents, la CCI Tarbes et Hautes-Pyrénées s'engage de nouveau pour l'édition 2025 avec pour objectif de favoriser le rapprochement entre les jeunes et l'entreprise au travers de l'orientation et de la découverte des métiers. L'événement est également ouvert aux personnes en reconversion professionnelle. Visite guidée du centre historique et de la cathédrale de Rodez, hors clocher. Pourquoi parle-t-on de la maison dite d'Armagnac? Pour quelle raison la façade principale de la cathédrale est un mur infranchissable? Vous le saurez en écoutant la petite et la grande histoire de la ville contée par un guide, mercredi 29 octobre à 14h30.
Merci Éric Leclerc, retour de l'info sur notre antenne dans moins d'une demi-heure avec l'actualité nationale et internationale. La suite de Présence Midi, dans les prochaines minutes, on prendra la direction de Lourdes avec Laurent de l'Office de Tourisme de Lourdes. Il nous expliquera l'histoire de la place Marcadal qui se trouve en plein centre-ville. Mais pour le moment, on va parler de la nouvelle quinzaine du Nartex qui s'annonce dans le diocèse de Tarbes et Lourdes avec Anne-Rose Jankovic et son invité.
Radio Présence aux portes du Tarn. 97.9.
Bonjour Père Pierre de Berger.
Bonjour.
Vous êtes prêtre originaire du diocèse d'Aire et d'Aix, vous êtes bibliste, membre de la commission biblique pontificale et vous interviendrez dans quelques jours à Tarbes. Vous donnerez une conférence dans le cadre de la quinzaine du Nartex, la 32e édition de la quinzaine du Nartex. Vous interviendrez le jeudi 13 novembre pour donner cette conférence sur le thème « Espérer contre toute espérance ». Alors ma première question aujourd'hui, elle est celle-ci, à quoi bon espérer et comment on peut trouver l'espérance dans un monde où, il faut bien le dire, nous sommes quand même confrontés à beaucoup de maux et de noirceurs, Pierre de Berger.
Mais je crois qu'en regardant au plus près de là où l'on vit, moi, c'est vrai que lorsqu'on écoute la radio, lorsqu'on voit la télé, on a l'impression que le monde de fait est aux prises avec des raisons de désespérer. Mais si je regarde autour de moi, je m'aperçois que dans mon village, il y a, par exemple, il y a des tas d'initiatives qui sont prises pour créer du lien, pour de l'attention aux personnes qui sont en difficulté. Je constate aussi le désir de vivre peut-être de manière plus sobre, de manière plus écologique, avec toutes les alternatives, des initiatives locales, mais aussi des initiatives d'entraide qui se multiplient. Je crois qu'il y a des réfugiés, des plus pauvres, soutenir les personnes victimes de violences. Puis, si vous voulez, je pense de manière encore plus simple à toutes les personnes qui œuvrent bénévolement pour faire vivre des clubs sportifs, pour des associations culturelles, toutes les personnes qui travaillent aussi bénévolement dans le domaine ecclésial, dans les conseils pastoraux, dans les EAPP. Je crois que, voilà, si on regarde le monde, on aurait peut-être, oui, des raisons de s'inquiéter. Mais si on regarde au plus près de chez soi, on constate qu'au plus près de chez soi, il y a de très, très belles choses qui se vivent. Il y a des gestes d'entraide, il y a des gestes de solidarité, il y a des gestes de soutien. Il y a le désir peut-être aussi, pour moi, c'est un signe d'espérance, le désir aujourd'hui pour de certaines personnes de retrouver du sens. Et qui ne vont pas hésiter parfois à quitter certains métiers ou professions qui étaient bien payés pour vivre plus sobrement, mais davantage en équilibre avec leur vie familiale, leur vie personnelle. Moi, je vois là vraiment des raisons d'espérer. Et finalement, si on fait la somme de tout cela, on se rend compte qu'il y a peut-être beaucoup plus d'initiatives aujourd'hui qui existent et qui vont dans le sens d'une espérance vécue au quotidien qu'il n'y en avait il y a 40 ou 50 ans.
Alors, si je vous suis, ça veut dire que l'espérance, en fait, c'est une posture, une sorte de disposition du cœur à être capable d'observer ce qui est bien, ce qui est beau.
Oui, je crois que l'espérance, elle naît d'abord du regard que l'on porte sur ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de vrai, ce qu'il y a de juste au plus près de nous. Et c'est ça qui va nourrir à la fois notre espérance et qui va nous redonner confiance. Parce que je pense que la grande question d'aujourd'hui, c'est aussi la perte de confiance. Alors c'est vrai que la perte de confiance, elle peut être motivée par quantité de raisons, y compris peut-être parfois même dans nos vies personnelles. On peut perdre confiance, on peut perdre confiance dans les institutions, mais il me semble que si on apprend à regarder les petites choses, je dis les petites choses, presque les petits riens, mais qui ne sont pas des riens justement, les petits riens de nos vies quotidiennes autour de nous, on se rend compte qu'il y a de quoi espérer, mais que justement, l'espérance, peut-être qu'elle ne fait pas de bruit, elle se traduit par des initiatives, par des attitudes, elle se traduit par une manière d'être, une manière de vivre. Bien sûr, on n'est pas naïf, l'espérance et cette confiance en la vie ou cette confiance dans les autres, je pense qu'elle ne fait pas de nous des optimismes béats. On voit bien tout ce qu'il y a de tout ce qui ne va pas dans notre monde. On voit bien tout ce qui ne va pas dans notre société. Mais plutôt que de se replier dans des attitudes un peu défaitistes, ce que je propose, c'est de regarder autour de soi et de regarder plutôt tout ce qui va bien et de le cultiver et de participer avec toutes celles et ceux qui, justement, s'emploie à ce que notre monde soit peut-être plus beau, plus pacifié, plus juste, plus fraternel.
Oui, pardon Pierre de Berger, mais alors ce que vous nous dites là paraît facile, possible ici, chez nous, en Occitanie où tout va pas trop mal quand même. Il y a quand même des lieux dans le monde où ça semble un petit peu plus difficile. Est-ce que vraiment on peut trouver l'espérance partout ?
Alors, on ne peut pas la trouver partout, justement. C'est bien pour cela que, si vous voulez, comme on ne peut pas la trouver partout, il y a un risque. Le risque, c'est le risque du défaitisme. Et c'est le risque aussi du repliement sur soi. Mmh. Voilà, je me replie sur mon petit univers, tranquille, et là, je suis bien, et je me protège, et je crée mes propres abris dans lesquels je vais vivre précisément à l'abri de tous les dangers qu'il pourrait y avoir. Je pense personnellement que la grandeur de l'humanité, elle est autre. La grandeur de l'humanité face justement aux difficultés, face à tout ce qui pourrait être des raisons de s'inquiéter. Il y en a beaucoup de raisons de s'inquiéter. Mais c'est justement d'agir. C'est d'agir. Je ne me replie pas sur moi. Je ne me replie pas dans mes petits abris faits de confort, d'égoïsme et quelque part d'indifférence aussi à ce qui se vit ailleurs. Mais j'agis. Et j'agis avec toutes celles et ceux qui, justement, aujourd'hui, s'emploient localement. Je dis localement parce que c'est vrai que si je regarde à l'échelle internationale, si je regarde à l'échelle mondiale, bien sûr que, évidemment, je vais être complètement submergé par la guerre, par la haine, par tout le terrorisme, par tous les maux qui sont les maux de notre temps. Mais si je regarde au plus près de chez moi, et si j'agis au plus près de chez moi, je peux, avec d'autres, contribuer. Moi, je le pense. Je peux contribuer. Alors, j'évoquerai ma foi de chrétien, parce que c'est sûr que ma foi de chrétien, là, elle intervient. Elle intervient. Et elle intervient comme un moteur, justement, qui me fait ne pas me laisser prendre par le défaitisme ou ne pas me laisser prendre par le piège de l'indifférence ou la culture du déchet. Comme disait le pape François, il se battait contre cela. Je crois que la grandeur de l'être humain, elle est précisément de donner le meilleur de lui-même dans les plus petites choses qui sont les choses de chaque jour, mais qui, mises ensemble et vécues avec d'autres, peuvent contribuer
voilà,
à la transformation de
donc,
notre monde.
Espérer contre toute espérance suppose un engagement. Je m'adresse maintenant au bibliste que vous êtes, Pierre de Berger. Dans la parole de Dieu, dans la Bible, quel est le passage qui nous parle le mieux de l'espérance ?
Écoutez, je pense à deux choses. Je pense à Jésus. Jésus choisit des disciples fragile, faible, dont on sait que l'un le reniera, l'autre le trahira, tous l'abandonneront. Il met leur confiance en eux. Il a confiance en eux. Il a conscience de leur fragilité. Il a conscience de leurs difficultés. Il leur fait confiance. Il met son espérance en eux. Et puis, quelque temps après la résurrection, peu de temps après, qu'est-ce qu'on voit ? On voit Jésus qui redonne sa confiance. Il redonne sa confiance à Pierre, qu'il avait pourtant renié. Non seulement il lui redonne sa confiance, mais en même temps il lui confie son Église. Et Pierre, qui avait renié, qui était donc bien conscient de ses fragilités, accepte cette confiance que Jésus lui donne, et en retour fait confiance à Jésus, et accepte une mission qui va bien au-delà de ses qualités et de ses mérites, puisqu'il s'agit de conduire l'Église. Je trouve que cette réalité, ce point-là, pour moi, est vraiment source d'espérance. Je pense aussi, si je regarde les premiers temps de l'Église, je pense à Paul. Paul, il persécutait l'Église. Il persécutait l'Église de Dieu. Il contestait tous ces croyants issus du judaïsme, qui considérait que Jésus était le Messie. Et il va être saisi par Jésus. Mais non seulement il va être saisi, il va vivre une véritable conversion, mais il va voir Jésus, qu'il persécutait, lui demander, lui faire confiance, et lui demander de devenir son apôtre auprès des païens. Est-ce que vous ne croyez pas que ces deux épisodes, mais il y en aurait beaucoup d'autres, sont pour nous vraiment une source immense de confiance, mais de confiance et d'espérance en celui qui nous fait confiance.
Merci beaucoup.
Je mets ma confiance en Dieu, je mets ma confiance en Jésus, parce que je sais que lui me fait confiance. Et je sais que lui ne m'enlèvera jamais sa confiance, quel que soit mon péché, quelles que soient les tentations, les difficultés qui sont les miennes. Je dirais même plus, c'est au cœur même des difficultés que je rencontre qu'il viendra me rejoindre. Et c'est au cœur même des tentations, des épreuves, qu'il sera avec moi, qu'il souffrira avec moi, pour que je ne désespère pas, ni de moi, ni du monde, ni de lui.
Espérer contre toute espérance, c'est donc le thème de cette conférence que vous donnerez, Père Pierre de Berger, dans le cadre de la quinzaine du Nartex. Ce sera le jeudi 13 novembre à 18h30 à la Bourse du Travail à Tarbes. Merci beaucoup pour vos réponses.
Merci à vous. Merci.
Merci, à bientôt sur Radio
Merci
Présence.
À Anne-Rose Jankovic. Donc, cette nouvelle quinzaine du Nartex, ça va se passer à Tarbes. Elle va regrouper 4 soirées, 3 conférences et une table ronde durant les 15 premiers jours de novembre. Puis, début décembre, sera projeté le film de clôture. Ce sera au cinéma Le Parvis. Si vous souhaitez vous renseigner, nartex65.fr. Ce sont des conférences ouvertes à tous avec une libre participation. Bon appétit. La suite de Présence Midi. Dans un instant, on va s'intéresser à la place Marcadale qui se trouve en plein centre-ville de Lourdes. Et puis à 13h, l'actualité nationale et internationale sera de retour avec la rédaction française de Radio Vatican.
À foi, 100.2.
Balade en pays de Lourdes, en partenariat avec l'Office de tourisme de Lourdes.
Direction Lourdes et la place Marcadale avec Julie de l'Office de tourisme de Lourdes. Bonjour Julie.
Bonjour Gilles.
Je le disais, donc la place Marcadale, on va peut-être rappeler où elle se trouve. Elle est en plein centre à Lourdes.
Exactement, elle est en plein centre-ville de Lourdes. Et la place Marcadale, historiquement, elle n'était pas si centrée. Finalement, elle était autrefois un peu excentrée. Elle était en dehors de l'enceinte fortifiée de la bourgade de Lourdes. Et c'est la place depuis l'an 1020, la place du marché historiquement. Le marché qui avait lieu tous les 15 jours, toujours en alternance avec le marché de Tarbes. ce marché sur la place Marcadal s'est allé jusqu'à la place qui s'appelle la place du Porche. Et elle était, le marché était un petit peu stoppé à ce niveau-là par l'ancienne tour qui trônait sur cette place. La tour, une tour ancienne qu'on ne voit plus aujourd'hui sur la place du Porche. Plus tard, avec le développement de la bourgade, le marché pose problème, puisque tous les notables de la ville vont construire leurs jolies maisons cossues autour de cette place. On en voit encore de très belles. Et là, ça va poser problème, puisque les notables ne veulent plus trop du marché qui fait un peu tâche. Ils ne veulent plus d'étal devant leurs portes. Donc là, le marché doit déménager. Et c'est maintenant, il prend place là où on le connaît maintenant, sur la place du Champ commun.
En prolongement de cette place Marcadal, on pouvait retrouver à l'époque l'église Saint-Pierre.
Exactement, l'ancienne église Saint-Pierre qu'on ne voit plus aujourd'hui, qui elle aussi était à l'extérieur des remparts, délimitée par la rue actuelle des Petits Fossés. À l'origine, il y avait une première église paléochrétienne déjà à cet emplacement, et c'est à partir du XIe siècle que l'église romane fut construite par-dessus. Il y avait tout autour une nécropole de sarcophages en pierre qui venait notamment des carrières du Béout et qui sont toujours conservées au niveau du château fort, musée pyrénéen. Et en 1991, avec les travaux au niveau du parking souterrain, on a découvert aussi des fondations d'une ancienne tour carrée qu'il y avait à cet emplacement, et aussi un carrefour de voies antiques datant de l'époque gallo-romaine. Donc c'était vraiment l'emplacement du forum romain et le cœur du bourg antique.
Donc on l'a dit, cette église de Saint-Pierre a disparu et une nouvelle église a été construite.
C'est ça. En fait, après les événements à la grotte en 1858, le curé, que l'on appelle encore le curé des apparitions, Marie-Dominique Peyramale, veut d'une église paroissiale beaucoup plus grande et juge l'église Saint-Pierre trop petite et trop vétuste. Elle est détruite entre 1904 et 1907 pour être remplacée finalement par l'église actuelle, l'église paroissiale du Sacré-Cœur, dont la construction commence à partir de 1875 et selon les plans de l'architecte Édouard Delebarre de Bé. Mais par manque de fonds et quelques mésaventures, les travaux sont interrompus et elle est finalement à peu près achevée en 1903. Elle est longtemps restée sans clocher qui a lui été rajouté en 1936.
Et des travaux de rénovation sont toujours en cours aujourd'hui.
Exactement, elle a quand même pris mal pendant cette période où elle n'a pas été terminée. Il y a quand même eu pas mal d'infiltrations d'eau, il y a quand même eu des parties qui ont été endommagées et abîmées. Et depuis quelques temps, des travaux de restauration sont en cours sur l'église du Sacré-Cœur, qui va être à nouveau magnifique. Elle est notamment connue et pas mal visitée par les visiteurs de Lourdes grâce aux fonts baptismaux qui y sont conservés. Ce sont des fonts baptismaux qui datent de l'époque de l'ancienne église Saint-Pierre qui était dans cette église et sur lesquels a été baptisée Sainte Bernadette notamment et qui sont maintenant dans cette église du Sacré-Cœur. On trouve aussi à l'église du Sacré-Cœur, dans la crypte, le tombeau du curé Peyramale.
Voilà, la place Marcadal à Lourdes nous a amené donc à l'église du Sacré-Cœur donc à Lourdes. Il me reste qu'à vous remercier, Julie. Je rappelle que vous faites partie de l'Office de Tourisme de Lourdes et on se dit à une prochaine fois pour une nouvelle chronique Balade en Pays de Lourdes. Merci Julie.
Merci beaucoup, bonne journée.
Balade en Pays de Lourdes, en partenariat avec l'Office de Tourisme de Lourdes.
Présence à Cajarc, 97.7.
Allez, un petit café et on commence la journée.
Bonjour tout le monde, bienvenue sur Radio Présence, il est 7h, très bon début de journée.
Et quoi de mieux que Présence Matin pour se réveiller? Tous les matins, de 7h à 9h, retrouvez Jonathan Botello pour vous donner le sourire, la bonne humeur et des cadeaux. Et il n'est pas seul, il est accompagné d'Isabelle Duché et de ses invités à 7h40. Présence Matin, l'émission qui égaye votre quotidien.
I know it's not much. maybe a quite a simple wonder, but that's not how it goes. I hope you don't mind. I hope you don't mind what I go down in words. Words. How wonderful life is when you're in the world.
FM. Radio Vatican,
le journal.
le journal.
Dessiner de nouvelles cartes d'espérance, c'est le nom de la lettre apostolique.